Le retour vers le passé nous éclaire considérablement sur ce qu'on a manqué, sur ce qui a été oublié, qui nous permet de comprendre un petit peu ce que liberté veut dire.
Charles de Foucault, le père du désert.
Les Touaregs, même quand ils passent les Touaregs là près de sa tombe, quand ils passent, ils disent toujours « Habkayallah et al-Marabo ».
Vous avez entendu Mohamed Belaïd, qui est un témoin important. Il a vu Charles de Foucault en vrai et en rêve, peu de jours avant qu'il ne soit tué à l'occasion d'un coup de main de partisans anti-français contre Taman Rasset. L'année suivante, en 1917, Belaïd a assisté au transfert de son corps. Il souligne que le père avait conservé son visage, signe qu'il s'agissait d'un marabout. Belaïd dit aussi un saint. Marabout, saint. Foucault, en revanche, n'était pas l'ermite qu'on a présenté souvent. Plus jeune, il avait rêvé de s'enfermer derrière une clôture, à Nazareth, pour y mener la vie cachée et obscure de Jésus enfant. Il avait même rédigé alors une règle de retrait excessivement sévère à l'intention d'un ordre qui n'existera jamais. Plus tard, en 1905, choisissant Taman Rasset, il s'établit certes dans un avant-poste, mais son intention est maintenant de se porter au contact des gens qui demeurent dans cette petite termitière humaine et des nomades qui y passent. Il reçoit qui veut, écoute les propos de ses hôtes qui lui permettent d'achever son dictionnaire français Touareg en chantier depuis longtemps. Foucault a la rage de comprendre, mais aucunement celle de convertir. Il ne trouvera personne pour assister à la messe qu'il finit quotidiennement par célébrer seul. On pense irrésistiblement aux morts de Tibirine. Même si elles sont pareillement obscures, les circonstances ne sont pas semblables. Foucault n'est pas, comme les moines de Tibirine, un homme d'après la colonisation. Mais il a longtemps été, comme eux, un cistercien, et il a témoigné d'une même présence silencieuse de frère universel.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
François Sureau, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez chez Gallimard « Pour moi, je ne pense plus voyager ». C'est un mot qu'avait utilisé dans une lettre les derniers temps Charles de Foucault. Alors, on vous connaît comme avocat de haut vol et puis aussi comme l'un des initiateurs d'une association très efficace de soutien juridique et éducatif aux réfugiés, comme si l'homme qui fréquente beaucoup de gens qui se croient importants avait envie de rencontrer aussi ceux qui se tiennent dans l'ombre.
Oui, enfin d'ailleurs, d'une certaine manière, tout le monde se tient dans l'ombre, y compris les gens importants, qui excellent à présenter au public la figure qui convient. Et quand on écrit ce genre de livre, avant j'en avais fait un sur Ignace de Loyola, on est toujours extrêmement frappé de voir que les gens importants parfois vous écrivent et vous disent, en vous écrivant ou en vous rencontrant, après avoir lu ce genre de livre, des choses tout à fait étonnantes et absolument inattendues. Au fond, en réalité, je ne sais pas si la bonne distinction c'est important ou pas important. Et il me semble qu'à la fin, c'est Malraux qui avait raison quand il citait, je crois, Bockel, qui devait être l'aumônier de la brigade Alsace-Lorraine, qui était à Strasbourg ensuite. Et Malraux lui demandait, qu'est-ce que vous a appris mon père l'expérience de la confession? Bockel avait réfléchi un peu, il lui avait dit, au fond, vous savez, il n'y a pas de grande personne. Voilà. Qu'il soit dans la rue ou dans ministère, il n'y a pas de grande personne.
Dans votre enfance catholique, François Sureau, vous avez eu connaissance du nom de Charles de Foucault. C'est pas comme à l'entrée à la maison de la radio, là, tout à l'heure?
Non, alors, l'entrée à la maison de la radio était fantastique. Dieu fait aussi de tout petits miracles, comme disait Malebranche. J'arrive, je demande à rentrer dans l'émission de Jean Lebrun, et le monsieur qui est à l'entrée regarde l'affiche et dit « Ah, je vois, vous êtes Charles de Foucault
voilà. ». Alors, vous aviez connu le nom dès l'enfance, et vous l'avez retrouvé, vous accordez beaucoup d'importance à votre formation militaire à Saumur.
Oui, je l'ai retrouvé à Saumur. C'était une manière de parler de ça, parce que voilà.
C'était au bâtiment Foucault.
C'était
que
au
vous
bâtiment
étiez.
Foucault. J'étais incorporé à l'époque, il y avait le service militaire, et j'étais incorporé par une nuit sans lune de février où on cassait la glace le matin pour pouvoir se raser.
C'est pas un modèle d'officier, pourtant Charles de Foucault, il était plutôt prodigue. Fêtard, vous utilisez parfois, peut-être pas dans le livre, mais dans les interviews, le mot de partousard. Et en même temps, les ouvrages pieux insistent aussi, noircissent le trait sur sa jeunesse, parce que ça leur permet de décrire un retournement spectaculaire et l'arrivée à la lumière. C'est pas comme ça qu'il faut concevoir la vie de Foucault.
Oui, non, ça marche pas comme ça. D'ailleurs, sur le plan spirituel, ça ne marche pas comme ça. Et ce qui frappe plutôt, c'est une sorte de continuité. D'abord, c'est vrai que c'était un mauvais officier. Il était gros, il faisait mal l'exercice. Enfin, jusqu'au moment où il a décidé de se réengager après sa démission de l'armée pour faire campagne. On en parlera ensuite au moment de la révolte de Bouhamama. Donc, c'est vrai que c'était pas un bon officier. Néanmoins, c'était quelqu'un de son temps, de milieu aristocratique de son temps, qui était d'une famille de l'Est. Il avait passé son enfance à Strasbourg et à Nancy. C'est quelqu'un qui est né en 1858. Hein. Je digresse un moment là-dessus. C'est une génération absolument étonnante, puisque 1858, vous avez trois figures qui sont quand même assez antagonistes. Deux d'entre elles le sont moins l'une par rapport à l'autre. C'est Rimbaud, Pétain et Foucault. On a peine à imaginer que ces trois ont appartenu exactement à la même génération, un ou deux ans près. Je crois que Pétain était né en 1856.
Le seul à ne pas avoir fait Saint-Cyr, c'est Rimbaud.
Le seul à ne pas avoir fait Saint-Cyr, bien qu'il ait essayé de porter les armes dans l'armée hollandaise, si je me souviens bien, c'était Rimbaud. Foucault est un enfant de cette époque, et donc on voit dans sa correspondance de jeunesse qu'il a été incroyablement marqué par la perte des provinces perdues. C'est quelqu'un qui il écrit à plusieurs reprises que dès qu'il aura l'âge d'homme, il voudra faire un grand massacre d'Allemands. Bon, tout ceci le porte assez naturellement à l'armée, plus les désirs de sa famille. Et c'est vrai qu'il n'y est pas heureux du tout et qu'il y est noté très sévèrement. Une de ses notations militaires porte, quand on voit ce qu'a été le reste de sa vie d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose au fond paradoxalement très juste, n'a à aucun degré le sentiment du devoir.
Mais il y a un des officiers qui le note qui dit « ne veut servir qu'au combat, jamais arrière », c'était la devise de la famille Foucault. L'appel du silence et l'appel de l'Afrique, d'abord l'appel de l'Afrique, ensuite l'appel du silence et en Afrique, après un séjour à Nazareth, un autre séjour à Agbès en Syrie, le tienne et il va s'installer en Algérie. Il est devenu prêtre en 1901, mais aux confins de l'Algérie, profond de l'Algérie.
Alors avant ça, il y a quand même une chose à noter, j'en reviens un peu en arrière sur ce que vous disiez sur la conversion et la logique d'une vie. Il y a des choses très fascinantes et qui d'ailleurs sont presque romanesques. Par exemple, comme une prémonition de ce qui va lui arriver ensuite quand il va s'installer dans le désert et au milieu des Touaregs, il y a un moment où il disparaît de l'école de cavalerie de Saumur. Et pendant une semaine, personne ne sait où il est. Et en réalité, il est déguisé, si je puis dire, en mendiant et il mendie son pain dans les fermes du Maine-et-Loire. Et quand le commandant de l'école le convoque pour lui demander ce qui lui est arrivé, il refuse de lui répondre. Et il y a comme ça des petites traces, un peu comme l'abcès au nez de Saint-Ignace à Arévalo, il y a des petites traces de ce que va devenir la vie de Foucault avant que Foucault ne devienne celui qu'il était destiné à être.
L'appel de l'Afrique, il va l'entendre d'ailleurs au Maroc, où déguisé en mendiant, il va vagabonder pendant un an en tirant un très beau livre sur l'exploration du Maroc qui lui vaut une médaille à la Société de Géographie.
Pas en n'importe quel mendiant d'ailleurs, hein, c'est très significatif. Foucault est quelqu'un de son milieu est un milieu à l'époque relativement antisémite, c'est la France de... Enfin, quand je dis relativement, c'est pour rester poli. C'est la France de l'affaire Dreyfus, et pour des raisons d'ailleurs pratiques, mais c'est quand même assez étonnant, Foucault va explorer le Maroc déguisé en juif de Moldavie, sous un déguisement idoine, et guidé par Mardoché Abisserour, qui était un homme qui, après Caillé, a redécouvert Tombouctou et qui était un explorateur absolument extraordinaire. Et à la sortie d'un quartier de cavalerie, alors qu'il est en train de croquer des olives dans la poussière, habillé en juif, parce que les juifs avaient un costume reconnaissable dans le Maroc de cette époque, il va voir sortir ses anciens camarades, qui vont le regarder manger ses olives dans la poussière et dire de lui « Regardez ce petit juif, il a l'air d'un singe ».
On le sait de quoi il a l'air quand il est à Beni Abbès à partir de 1901, à l'ouest de l'Algérie, puis au sud de l'Algérie à Taman Rasset à partir de 1905. C'est un prêtre depuis 1901, mais un prêtre libre qui va retrouver tout de même l'homme officier qu'il a été quand la guerre de 14 se déclenche, qui a des conséquences. Les tribus aux loyautés successives du Sahara profitent évidemment du conflit pour se livrer à des opportunités.
Oui, c'est-à-dire que depuis toujours sur cette frontière, en fait, il y a d'une part le fait que les tribus touaregs ont des loyautés successives et vont du côté de celui qui domine. Donc, et de l'autre côté, quelque chose qui est assez actuel, si je puis dire, qui est un appel à la guerre sainte, c'est-à-dire que les nations chrétiennes s'écharpent entre elles dans des conditions assez abominables. Il est assez logique de prétendre se débarrasser de l'influence des chrétiens. Alors c'est d'autant plus étonnant, on en parlera sans doute, que les relations de Foucault avec la colonisation sont assez ambiguës. Et pour lui, le principal reproche qu'il fait d'ailleurs à l'Algérie coloniale, c'est d'être tout sauf une Algérie chrétienne.
Cependant, des Algériens sont très attachés à l'administration française, comme Mohamed Belaïd, déjà cité, dont on va entendre le témoignage, qui est peut-être inédit. Il a été enregistré en 1966, peut-être dans un camp de Harki, où il était réfugié, et il évoque la fin du mois de novembre 1916. Il a accompagné le capitaine de la Roche à Tamanrasset, et au retour.
J'ai rêvé, je me trouvais à ma table, le capitaine de la Roche m'a donné une pièce à la faire signer par le père Foucault. Quand je lui ai présenté, il a refusé. Il n'a pas voulu la signer. Presque aussitôt, le capitaine de la Roche est rentré. Quand il est rentré, j'ai dit, mon capitaine, il n'a pas voulu signer. Alors il giflait. Il dit, pas signé. Il regardait comme ça, il dit, ah, vous me frappez parce que je suis vieux. À un moment donné, comme les militaires, ceux qui sont punis de prison, ils font la corvée du quartier. Je l'ai aperçu, lui, ramassait les ordures, deux militaires tenaient un sac. Le lendemain, jeudi, comme je faisais des cours de français aux militaires, je leur ai dit, voilà mon rêve. Moi, voilà ce que j'ai rêvé sur le père Foucault. Et nous, les musulmans, quand on voit, on aperçoit des Européens, pendant le rêve, nous disons que c'était des saints.
Les Européens, pendant un rêve, ce sont des saints. Mohamed Belaïd.
C'est extrêmement impressionnant, parce que derrière tout ça, il y a les derniers mois de la vie de Charles de Foucault, le fait que tous les militaires de Fort Motilinski, qui était le fort voisin, constatant qu'ils n'arriveraient pas à défendre Tamanrasset, au cas où Khaosen, qui avait été intronisé par le grand maître de la confrérie des Sénoussis, arriverait à prendre cette région, tous les militaires donc avaient demandé à Foucault de se réfugier à Fort Motilinski. Et Foucault n'avait pas voulu. Et il n'a pas voulu. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que 10 ou 20 ans avant, il y a des lettres de lui où il dit qu'il espère le martyr. Hein, j'aimerais de mourir douloureusement et violemment tué. Enfin, et à la fin de sa vie, il a cessé d'espérer ça. Ses lettres disent simplement « il y a tant de bien à faire et je voudrais faire encore un peu de bien ». Et s'il reste, ça n'est pas en réalité pour rechercher un martyr, une forme de gloire spirituelle, même intérieure, c'est pour rester avec des populations qui, à l'époque, sont quand même assez ravagées par la conscription. On a envoyé beaucoup de gens sur le front de France, par les deuils, par la famine. Il y a un passage absolument poignant où Foucault assiste à l'enterrement d'un de ses vieux amis qui était son interprète musulman et il est extrêmement attristé parce qu'il a l'impression que la foi, même musulmane, disparaît face à la dureté du temps. Et c'est ça qu'il a voulu faire, c'est rester parmi eux jusqu'au bout. Et sous ce rapport, même avec la différence de temps, c'est vrai que ça ressemble beaucoup sur ce point à la destinée des moines de Tibérine, en effet.
Le pays est très calme, c'est une ultime notation dans ses carnets, sauf que Khaosan et ses hommes, la petite armée qui a été adoubée par les Sénoussis, la future dynastie de l'indépendance de la Libye, approchent.
On reçoit le courrier le 1er du mois ou le 15 du mois. Alors, ils sont arrangés d'arriver le 1er du mois. Alors là, ils peuvent prendre le père Foucault. Parce que ce jour-là, du courrier, il ouvre la porte quand on annonce c'est le courrier, il ouvre sans méfiance. Et sa mort, puisqu'on a le Madani leur a servi de guide, ils sont venus plus loin de Tamanrasset, loin que les habitants ne les voient pas, ils ont fait le contour des montagnes. Ils ont décidé que ce jour-là, le premier du mois, de venir au poste. Alors ils sont venus, arrivés à Tamasinte vers 7 heures du soir. Ils ont tapé à la porte. Alors il est venu qui est là, c'est le postier, Bouchat. Et le père Foucault a ouvert la porte.
Un des hommes cités, Madani, le guide de la troupe de Khao Sen, vous l'avez retrouvé, curieusement, dans les archives militaires, dans le dossier d'un officier qui l'a arrêté en 1944.
1944, c'est-à-dire que... alors, Madani, c'est étonnant, c'est une figure étonnante. C'était un paysan pauvre, sédentarisé, dont Foucault s'était pas mal occupé. Il avait des problèmes de Dieu, on ne sait pas si c'est un glaucome ou un abcès. Il l'avait soigné ses yeux. Il lui avait donné, semble-t-il, un peu d'argent pour qu'il puisse s'acheter un lopin de terre avec un puits. Enfin bon. Et c'est ce Madani, qui est un homme tout simple, qui en réalité... Alors la question est de savoir s'il a été fait prisonnier par les Senoussi et obligé de servir de guide ou s'il y est allé de son plein gré. Toujours est-il que c'est lui qui a fait ouvrir à Foucault la porte du fortin où il était, évidemment, le reconnaissant, Foucault a ouvert cette porte. Ça a suffi à une pléthore d'agiographes pour faire de Madani la figure d'une espèce de Judas. En réalité, l'histoire est beaucoup plus simple. C'est une période de guerre. Malgré tout, les tribus Touareg ralliés aux Senoussi ont beaucoup plus de choses en commun avec Madani qu'avec Foucault, et donc il a changé insensiblement de loyauté.
Mais quand une génération plus tard, Madani est arrêté par une compagnie de méharistes en 1944, qu'il comparait devant le chef d'escadron Florimond, vous avez retrouvé le dossier de Florimond aux archives de Vincennes, Florimond improvise une cour...
Florimond improvise une cour et de manière tout à fait simple, il lit son code de... C'est un militaire qui rend la justice, donc ces deux qualités sont quand même assez souvent incompatibles. Mais enfin, il est sérieux, il fait sérieusement son travail, il a un code d'instruction criminelle adapté au système militaire. Il le lit, il constate que les frais sont prescrits, purement et simplement. Qu'on peut lui reprocher tout au plus une complicité d'assassinat qui se prescrit par 10 ans. Les 10 ans se sont écoulés et donc il décide de libérer Madani. À partir de là, un nombre d'auteurs ont romancé le fait qu'il l'ait laissé partir en lui disant c'est ce que le père aurait voulu. En réalité, je n'en crois rien. Tout ça.
Mais qu'est-ce qu'il dit Madani quand il témoigne devant cette cour? Parce qu'on lui a quand même posé la question. Il dit qu'il a élargir.
Oui, il y a d'ailleurs des comptes rendus. Il y a des comptes rendus de ses interrogatoires. Il dit qu'il a été forcé, tout simplement, qu'il n'aurait pas voulu faire ça et qu'il a été forcé. Et d'ailleurs, il indique que ce qui est probablement vrai, que quand il a fait ouvrir la porte de Foucault, l'idée des rebelles n'était certainement pas de le tuer. Et en effet, sa mort semble résulter plutôt d'une espèce de concours de circonstances. Il y avait un jeune Touareg qui s'appelait Sermi Aktora qui a été commis à la garde du père de Foucault. Et il semble que Foucault ait fait un geste pour prévenir les deux courriers qui arrivaient du Fort Motilinski, qui étaient deux méharistes pro-français, pour leur éviter de tomber dans le piège et de tomber dans un fortin occupé par les Senoussi. Il s'est donc levé pour les prévenir. Et par erreur ou par maladresse, Sermi Aktora lui a tiré une balle qui est rentrée dans l'oreille et qui l'a tué instantanément. Et il n'y a pas eu non plus de demande faite à Foucault d'abjurer sa foi, de se convertir à l'islam, etc. Tout ça est une espèce de rencontre ambiguë et nocturne. Et une vie qui s'achève dans une sorte de ténèbres, le dernier mot qu'il a prononcé avant de mourir étant Bagi en Mout, ce qui veut dire en tamashek c'est l'heure de ma mort. Et il n'a dit que ça.
Le tamashek. Alors quand il est à Tamanrasset, il achève un dictionnaire français touareg, français tamashek. On l'a retrouvé d'ailleurs en même temps que les dernières lettres qu'il avait voulu écrire et envoyer ce 1er décembre, le manuscrit de ce dictionnaire qui a été édité tel quel, très belle édition en fac-similé en 1952, Pierre Ichac. Pierre Ichac, c'est le bienheureux producteur de l'émission Union Française dans les années 1950, a rencontré Monsieur Basset, qui est le fils du professeur Basset, qui avait collaboré à ce dictionnaire et que Charles de Foucault allait voir régulièrement à Alger.
Quel est à peu près le volume, le contenu de ce dictionnaire qui enfin vient de paraître complètement? Combien y a-t-il de mots?
Vous me demandez combien il y a de mots, je ne pourrais pas vous répondre. Parce que, d'abord, c'est par racine qu'il faut compter, on ne sait jamais combien il y a de mots par racine. J'ai compté le nombre des racines qui fournissent des verbes, il y en a 1400. Alors, les autres, je ne sais pas trop, j'évalue un petit peu à vue de nez, à 2000, 3000, bref, je compte qu'il y a de 3 à 4000 racines dans ce dictionnaire. Mais en tout cas, il est une chose certaine, c'est qu'il nous épuise pratiquement le travail et que nous savons maintenant combien un nomade, Touareg, c'est-à-dire, je ne dirais pas ces formes anciennes d'humanité, eh bien, peuvent avoir comme vocabulaire. C'est à cet égard-là, c'est également une chose extrêmement intéressante.
Dans votre livre chez Gallimard, vous êtes prudent, François Sureau, vous ne voulez pas excéder vos compétences. Mais enfin, quand même, vous avez choisi quelques mots de Tabachek.
Oui, j'ai choisi quelques mots. Il y a des mots qui sont tout à fait étonnants. Alors, évidemment, on est toujours porté, quand on connaît la destinée de Foucault, à prêter plus au traducteur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, porter une portée spirituelle sous-jacente. Mais il y a des mots qui m'ont évidemment fait rêver, comme par exemple Assouf, qui désigne à la fois le vide, l'absence, la solitude, et à la fois la solitude de l'homme solitaire, la solitude intérieure et la solitude du désert. Et c'est vrai que beaucoup de poèmes Touareg sont marqués par cette idée des campements où il reste encore des éléments de cendre et où on arrive et où le poète Touareg décrit le campement vide avec la poignante douleur de la disparition. Et ce même mot sert également à désigner la solitude qui naît de l'absence de l'être aimé. Il y en a un autre aussi qui est très beau, c'est Edel, qui signifie à la fois espérer et arriver chez quelqu'un de nuit. Ce qui, évidemment, pour le lecteur chrétien, évoque irrésistiblement les phrases évangéliques sur c'est quand vous ne vous y attendez pas qu'il rentrera chez vous comme un voleur. Et cette idée d'un Dieu discret qui arrive chez vous à la nuit et qui correspond à peu près exactement à l'idée de l'Edel.
Et puis, on pensait à Tibirine au début de l'émission, la scène où Michael Lonsdale, l'un des moines, discute avec une jeune musulmane sur un banc de l'amour. Est-ce que il n'a pas recueilli des contes et des poèmes des soirées galantes?
Si. Alors, il y a, semble-t-il, hein, c'est ce que disent les ethnographes, notamment Dominique Cajazu, qui est certainement l'un des grands spécialistes de cette matière. Le système Touareg est un système tout à fait étonnant dans lequel les hommes font la guerre et sont responsables de la targuité. C'est l'idée de l'honneur Touareg. Mais en revanche, les femmes possèdent les tentes et surtout possèdent la maîtrise du langage. Et la plupart des grandes poétesses, comme Dacine, qui était la femme de Moussa Gamastan, la ménocale des Touareg, qui était l'amie de Foucault, Dacine était une très grande poétesse de ce temps, et les grandes poétesses, enfin les grands poètes, si je puis dire, chez les Touareg sont des femmes. Et il y a une dimension communautaire, c'est-à-dire que le soir, ils se réunissent sous la tente pour improviser des poèmes qui sont parfois des poèmes, on appelle ça laal. Et ce sont des poèmes extrêmement sentimentaux, voire sensuels, voire même libertins. Et dans ces soirées, de temps en temps, eh bien, des couples décident de se former, sortent et vont faire à l'extérieur de cette tente ce qu'ils ont à faire. Et Foucault a passé des soirées entières en compagnie de lui-même, qui menait une vie incroyablement austère, a passé des soirées entières à noter les poèmes, les allées et venues, les réactions des uns par rapport aux autres. Et c'est quelque chose d'assez étonnant, parce qu'il avait déjà été un ethnographe extrêmement sérieux et professionnel au Maroc, alors qu'il n'était pas converti. Il est resté, après sa conversion, comme si, au fond, toutes les manifestations de la vie terrestre, spécialement les manifestations de l'amour, avaient quelque chose à voir avec la beauté de la création.
Présence de Charles de Foucault, vous racontez comment jeune vous avez cru bon de partir à l'assaut d'un haut lieu foucaldien, un ermitage à 60 km de Tamanrasset dans une voiture. Je vous propose justement d'écouter un écho du rallye Alger-Le Cap, une sorte de Paris-Dakar avant l'heure, en 1951. Pierre Fromentin, reporter, s'arrête à Beni Abbès. Beni Abbès, c'est le premier lieu d'établissement avant Tamanrasset de Charles de Foucault en Algérie.
Beni Abbès. Le 1er janvier 1951. Devant un petit hôtel éclairé par 3 ou 4 bougies, surmonté d'un Christ peint par le père de Foucault, un prêtre officie. 4 femmes, 4 sœurs, prosternées, pris au Sahara, dans une pauvre chapelle riche de souvenirs et belle dans sa nudité, avec son chemin de croix dessiné par l'ermite, son autel de planches, sa crèche aussi simple que celle d'il y a 20 siècles. Point. Le prêtre se retourne. Point. Est-ce un mirage? Point d'interrogation. Les mêmes yeux, le même visage émacié, la même barbe, la même robe blanche ceinturée d'un chapelet et rehaussée d'un cœur rouge surmonté d'une croix. Point. Le père de Foucault vit toujours à Béni Abbès. Point.
Alors la succession de Foucault est extrêmement diverse, marquée par l'humilité, souvent aussi par l'hostilité entre les différents membres de la famille, les malentendus. Il y a les petits frères de Jésus, de René Voilhomme, il y a les petites sœurs de Jésus qui nomadisent sous des tentes, du moins quand la vie au Sahara le permet encore. Il y a l'union, la sodalité qui a été fondée par Louis Massignon, disciple immédiat de Charles de Foucault et qui est peut-être la plus dissimulée, la plus invisible des membres de la famille. Il y a quand même pour vous l'idée que cet homme ne cessant de passer d'un monde à l'autre, il est possible d'être foucaldien de différentes façons.
Oui, et puis alors surtout, le fait d'être foucaldien est exclusif de toute réussite visible. C'est-à-dire, quand on est foucaldien, on ne s'attend pas à créer la compagnie de Jésus, à régenter l'ancien et le nouveau monde, à élever l'élite dans les collèges. Ça n'est pas du tout ce registre. Ce qu'il y a d'étonnant dans la destinée de Foucault, en fait, et ça, il l'a vu, je crois, assez tôt, et quand il parle de déréliction, d'ailleurs, qui est un mot du vocabulaire spirituel, c'est bien ça qu'il vise. En fait, c'est une destinée qui fait ressortir la grandeur de l'échec, d'une certaine manière. Sa vie est un échec apparent. Il n'a converti personne, et peut-être même ne souhaitait-il profondément convertir personne, au sens où un saint François Xavier pouvait l'entendre, et se fatiguant le bras à force de convertir et de bénir. Il n'a converti personne, il est mort dans quelque chose d'étrange et qui ne ressemble pas à un martyr. Il n'a pas laissé après lui un ordre et des successeurs. Sa réputation même a été teintée par le fait qu'il a été un saint de la France coloniale, ce qui l'a probablement empêché d'être canonisé, puisqu'il est simplement bienheureux.
Et seulement depuis 2005.
Et seulement depuis 2005. Et donc il y a chez Foucault une espèce d'idée, enfin de réalisation de l'intérêt profond de l'échec. Et il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises dans ses lettres, ma destinée est de pourrir dans cette terre du Sahara, enfin c'est vraiment si le grain ne meurt, avec une attention extrêmement forte portée au monde invisible, dans la mesure où le monde visible lui semble extraordinairement éloigné de la réalité de l'Évangile.
Pour moi, je ne pense plus voyager. Il écrit cela à peu près au même moment que son testament, sur lequel vous fermez votre livre, François Sureau, chez Gallimard. Juste d'un mot, le commentaire sur ces trois mots. Allez le voir. Il dit ça de tous ses amis, et il dit à ses amis, allez le voir.
Allez le voir. C'est l'homme de Foucault, c'est l'homme de la rencontre. Hein. Quand on parle de fraternité universelle, il faudrait décrasser ces mots de leur côté abstrait. C'est l'homme de la rencontre. Il avait forgé cette idée très très jeune déjà. Quand après être devenu trappiste, il était trappiste en Syrie et il trouvait absolument regrettable que les portes des couvents soient fermées, que le caractère latin de la liturgie empêche les orientaux d'y participer. Foucault, c'est l'homme de la rencontre et de la rencontre individuelle, ce n'est pas l'homme de l'idée vague.
Et c'est l'homme de l'envoi. Merci François Sureau. Cette émission a été préparée par Frédéric Martin, Linka Legulesco, Franck Olivard à la réalisation, Valérie Aïstaraï à la technique, Éric Morin. Puis nous restons en Afrique avec vous, Mathieu Vidard, dans La Tête au Carré.
Oui Jean, on va faire connaissance avec deux jeunes chercheurs africains qui sont en France pendant 2 jours pour booster les sciences sur le continent africain, dans le domaine de la physique et des mathématiques en particulier.